Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 19 mai 1988.
Je vais relire avec vous pour que vous voyez bien, vous l'avez tous lu, j'espère. Dans les catégories d'Aristote, chapitre 7, sur le point de vue de la relation. Alors, remarquez d'abord, hein, parce que j'ai eu l'impression qu'hier vous perdez pédale, et c'est important pourtant, c'est un des lieux qui me semble particulièrement significatif pour saisir ce qu'Aristote entend par les catégories. Aristote commence par le prosti, n'est-ce pas? Remarquez que le terme prosti, c'est concret, c'est le relatif. Les relatifs. Nous disons tout de suite la relation. Et alors on fausse tout de suite la perspective. Vous voyez, c'est comme quand vous dites la liberté. On cherche ce qu'est la liberté. Non. On cherche à comprendre les actes libres. Puis progressivement, nous pouvons à partir de là parler de la relation. Ça qui est terrible, c'est que le langage fausse, hein, tout de suite. C'est pour ça qu'on part si facilement dans le côté de l'abstraction. Et qu'on ne voit plus alors, on perd pédale. Alors, voyez bien, dans ce texte d'Aristote sur le relatif, Aristote montre... On appelle relative ces choses dont tout l'être consiste en ce qu'elles sont dites, dépend d'autre chose, ou se rapporter de quelque autre façon à autre chose. Par exemple, le plus grand, donc plus grand, et ce dont tout l'être consiste à être dit d'autre chose. Car c'est de quelque chose qu'il est dit plus grand, ainsi que le double. Puis Aristote montre que le terme relatif peut de fait s'accompagner de la qualité, de la quantité des actions. La science est relative. La science, la connaissance est bien quelque chose de relatif. L'amour est bien quelque chose de relatif. Très curieux, cette infiltration du relatif à travers, je dirais, une quantité d'autres déterminations. Ça, c'est la première constatation qu'il fait. Le relatif s'infiltre partout. En raison même, on le verra plus loin, mais on peut le dire tout de suite, en raison même de la fragilité de son être. De la débilité de son être. C'est un virus. Hein, on dirait ça. C'est pas quelque chose de très, très massif. Et c'est justement à cause de ça que, de fait, quantité de philosophes considéreront que la relation n'est pas quelque chose de réel. Vous êtes assis, je suis assis, nous sommes relatifs. Je me lève, on n'est plus relatif. C'est-à-dire qu'on n'est plus relatif en tant qu'assis. Dans la relation, je dis, ceci existe, une réalité contingente. Cette réalité contingente disparaît. Mon jugement n'est plus vrai. Et pourtant, je ne suis pas changé. Oui, c'est une chose très curieuse. Quand j'affirme ceci existe, bon, ça pourrait brûler. Je maintiens mon jugement. Je ne suis pas changé, moi. Mais la réalité change. Et par le fait même, mon jugement n'est plus vrai. Dans l'amitié, qui est une relation, mon ami disparaît et meurt. Ma relation d'amitié disparaît. Et moi, je ne suis pas changé. Comment expliquer que, de fait, je ne suis pas changé au point de vue de ma réalité. Et pourtant, la relation disparaît. Donc, la relation est une pure vue de l'esprit. C'est l'intelligence qui crée des relations. D'où tout cet aspect qui existe en philosophie et en théologie, ceux qui prétendent que la relation n'est pas réelle. Alors, Aristote commence par affirmer le caractère existentiel de la relation, du relatif, des relatifs. Les relations existent, il y a des relations. Puis, il essaie de montrer ce que nous avions vu hier. Est-ce qu'on peut saisir la propriété? C'est le fait tout le temps, dans les catégories. C'est très intéressant comme approche. Oui, dans les catégories, la propriété ou les propriétés prennent une très grande importance. Et il faut être très attentif à ça. Si les catégories sont une propédeutique, les catégories vont insister énormément sur les propriétés. Alors, il examine les propriétés relatives. Certains relatifs sont contraires, mais il voit que la contrariété n'affecte pas le relatif comme relatif, mais la qualité qui est affectée de quelque chose de relatif. La contrariété n'est donc pas propre au relatif comme tel. Il fait la même constatation par rapport au plus et moins. Alors, il arrive ensuite à préciser, tous les relatifs pris au sens propre sont dits vers leur corrélatif. C'est vrai, qui dit prosti, dit corrélatif à quelque chose d'autre. Donc, ils sont vers leur corrélatif selon une réciprocité parfaite, s'il s'agit des relatifs purs. Et imparfaitement dans le cas des relatifs qualitatifs, dans les relatifs qualité. Ça, c'est très important, c'est ce qu'ensuite quelqu'un comme Don Scott et les scolastiques thomistes ensuite vont appeler la relation transcendantale. Ça jure un peu d'appeler quelque chose de relatif une relation transcendantale. Le relatif transcendantal, selon Don Scott, c'est une réalité qui ne peut pas se définir par elle-même, mais qui se définit grâce à un autre, un habitus, une puissance. C'est quelque chose, mais c'est quelque chose de relatif, et qui ne se définira qu'en fonction de son relatif. C'est ça qu'Aristote souligne ici. Les purs relatifs sont tout entiers dépendants de leur corrélatif, tandis que les relatifs qualité ont en eux-mêmes une certaine détermination, mais cette détermination ne peut être parfaitement déterminée qu'en fonction du corrélatif. La quatrième propriété relative, c'est la relative comme telle, sont par nature simultanées. Donc, deux propriétés du relatif pur, ils sont corrélatifs et simultanés. Alors, ça a déblé déjà pas mal de terrain. Aristote montre qu'il y a quelque chose qui refuse complètement d'être relatif. c'est les substances premières. Les substances premières et leurs parties intégrantes, il est clair qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des relatifs. Et donc l'Aristote met très en lumière l'opposition radicale de l'insubstance et le relatif. Je crois ça très important. On a bien montré que l'être est au-dessus des deux, que l'être implique les deux. L'être est premièrement substance, et la substance répugne d'être relatif. La substance première, le sujet. Mais il n'en va pas de même des substances secondes. La substance seconde, c'est homme, par rapport à Pierre. Ou plus exactement, de leur partie en tant que partie. La main de l'homme, la tête de l'homme. Tête devient relative à homme. Main est relative à homme. Pourtant, la main comme telle n'est pas quelque chose de relatif. La tête comme telle n'est pas quelque chose de relatif. Aristote propose alors, et c'est ça qui est très important, une nouvelle définition. Et ça, c'est très propre au relatif. Vous avez deux moments. Un premier, un regard général sur le relatif. Et puis, en fonction des quelques remarques qu'il fait, nous avons une nouvelle définition du relatif pur, qui a l'avantage d'intégrer la simultanéité de la connaissance des termes relatifs, puisque la connaissance du relatif, ainsi définie, donne immédiatement la connaissance de son correlatif. Vous ne pouvez pas connaître une relation pure sans connaître les deux termes corrélatifs simultanément. Ça, c'est très caractéristique de la relation. Alors, il nous dit, les relatifs sont ceux pour qui l'être consiste dans le rapport à quelque chose. Je vous donne le grec, esti, ta. Protosti, donc les ta protosti, les relatifs, sont des réalités ti oi to einain, to ton esti, to prosti, pos ekein. Cette formule est très très forte, elle est très intéressante, hein, elle est bien regardée. Les relatifs sont ceux pour qui, donc, ti, prosti, ois, pour qui, l'être, le toeinain, consiste dans le rapport à quelque chose. Ils sont, leur être même consiste à être tout entier, pros. Et s'ils sont tout entiers pros, ils impliquent nécessairement dans leur être l'autre corrélatif. Mais ce qui nous fait comprendre que le relatif est un être qui n'existe qu'en s'appuyant sur un autre. Donc il n'a aucune dignité propre. Quand vous ne pouvez rester debout, qu'en vous appuyant sur une canne, vous perdez votre dignité d'être debout. Parce que vous vous appuyez entièrement sur la canne. Vous êtes prosti. Et ça, c'est très très beau, cette formule d'Aristote. Hein. Dans les topiques, Aristote précisera, certaines réalités ne peuvent être définies que par leur opposé. Le double ne peut être défini sans la moitié. Cela est vrai pour tous ceux qui sont dits relatifs katota, c'est-à-dire par eux-mêmes. Le fait que la définition du relatif pur implique celle du corrélatif met en lumière une cause d'erreur facile. Si, définissant le relatif, on englobe son corrélatif dans un trop grand nombre de réalités, on se trompe, soit en totalité, soit en partie. Par exemple, en définissant la médecine comme la science de ce qui est, on fera une erreur partielle, car la médecine n'est pas par elle-même science de tout ce qui est. C'est joli. Ça, c'est dans les sophistes. Autrement dit, Aristote est très impressionné par ça. Le relatif ne se définit que grâce à l'apport de quelque chose d'autre. L'apport du corrélatif. Ça, c'est tout à fait unique à la relation. Et ça, je crois que c'est... Il faut saisir ça. Il faut saisir que le relatif est tellement débile dans son être qu'il se définit que par l'apport du corrélatif. Alors, il est maintenant possible de répondre à la question qu'Aristote s'est posée. Les parties des substances secondes ne sont pas proprement des relatifs, puisque la connaissance de la main ou de la tête ne donne pas immédiatement la connaissance de leur sujet. Il y a donc une irréductibilité totale des termes relatifs aux termes substantiels, alors qu'on passe facilement des termes quantitatifs, par exemple, aux termes relatifs. Et ça, c'est la question qu'Aristote se pose. La tête de l'homme, la main de l'homme, selon le langage, c'est relatif. C'est la main de l'homme, c'est la tête de l'homme. En réalité, si vous regardez bien, ce n'est pas des relatifs purs. Pourquoi ? Parce que homme ne définit pas la main. Homme ne définit pas la tête. Donc le terme corrélatif n'est pas impliqué dans la définition de son corrélatif. Tandis que quand vous avez un terme purement relatif, le corrélatif fait partie de la définition de son corrélatif. Homme ne fait pas partie de la définition de main. Tête, de même, homme ne fait pas partie de la définition de la tête. Oui, très subtil. C'est très intéressant, parce que on voit ce que représente le pur relatif. Très intéressant, parce que nous allons le voir, saint Thomas va se servir de cela pour essayer de transporter, de transposer le terme relatif en Dieu. C'est grâce à cette purification. Alors Aristote l'opère en pur philosophe. Hein. C'est grâce à cette purification du terme relatif comme totalement dépendant de son corrélatif qu'on peut comprendre que la relation comme telle n'implique aucune perfection. Ça, c'est assez génial par rapport à Platon. C'est une très grande purification. C'est pour ça que je dis que c'est à propos du relatif qu'on comprend ce que c'est que les prédicaments. On comprend que dans les prédicaments, il y a une recherche philosophique des modalités de l'être. Et donc, ce n'est pas purement la grammaire, comme aux banques le pense un peu. Il y a toute une analyse philosophique. Et une analyse philosophique qui va très loin. C'est très fin, les catégories. Vous voyez, la finesse de l'analyse, c'est très fin. Ça paraît très simple. On a beaucoup de peine à comprendre. Parce que justement, ça paraît très simple. Mais il y a là toute une analyse philosophique que vous saisissez. lorsque justement Aristote regarde le relatif. Beaucoup plus que la substance. Dans la substance, c'est assez gros. Sujet et attribut. Pierre et homme. Mais c'est beaucoup plus fin quand il s'agit du relatif. Pour bien comprendre la signification de cette nouvelle définition du relatif, il faut la saisir en fonction de l'aporie dont elle constitue la réponse. La première définition, en effet, est incapable de déterminer dans quelle mesure les parties des substances secondes sont des relatifs. Munis de cette seule définition, on peut seulement se demander si les parties des substances secondes sont attribuées à leur tout au titre de termes relatifs. Et dire que, parce que la tête est la tête de l'homme, elle est toute relative au tout dont elle fait partie. C'est là une conclusion qu'Aristote ne peut accepter. Étant donné la distinction qu'il fait en métaphysique entre accident relatif et substance. On voit très bien ce qu'Aristote a cherché. Et a cherché à saisir grâce au terme relatif, ce qui caractérise la substance. Vous voyez, c'est très curieux. Le relatif étant quelque chose de très fragile, une fois que vous le saisissez comme totalement dépendant de son terme corrélatif, vous donnez immédiatement à la substance une plus-value, parce que vous comprenez mieux l'autonomie de la substance. C'est ça, je crois. Et c'est là où on voit l'astuce des prédicaments. C'est que chaque prédicament s'éclaire mutuellement. La différence de la nouvelle définition consiste en ce qu'elle s'attache non plus à l'analyse des attributions des termes corrélatifs, mais à ce qui caractérise l'être même, le to einai, l'être même des relatifs. On est donc passé de la définition générique des termes relatifs à la définition propre des relatifs pris en eux-mêmes et de leur mode spécifique d'être. Oui, c'est là où on voit tout l'aspect philosophique qui est présent dans les catégories. Et c'est très curieux que ce soit le relatif qui le révèle. Mais comprenez bien toute la différence qui existe entre le legein et le to einein. Le legein, c'est le dire. C'est l'attribution. Alors, on pense toujours que les catégories restent à ce niveau. D'où, c'est la grammaire. La grammaire regarde les attributions. Le Toeinein fonde le Legein. Puisque tout Legein implique un certain être. Le Toeinein, ce qui est. L'être. Alors, le dire se fonde sur l'être. Et pour comprendre parfaitement la signification du dire, il ne suffit pas seulement de regarder substance première, substance seconde. C'est relatif, ça. C'est la structure de deux termes relatifs. Pour comprendre parfaitement le dire, il faut aller plus loin que de regarder la structure du dire, ce que les modernes disent. C'est pour ça que c'est intéressant. Tout le structuralisme est détruit par cette définition du relatif d'Aristote. comme si Aristote avait compris qu'un jour, on voudrait comprendre le legein par le legein. Le structuralisme veut comprendre le langage par le langage. C'est l'erreur fondamentale du structuralisme. On veut comprendre le legein comme un tout. Aristote montre ici, dans cette analyse du relatif, que vous ne pouvez pas comprendre le terme relatif en ne regardant que les termes relatifs. Il faut aller plus loin, il faut regarder le fondement du legein, to einein. Il faut donc regarder l'être du relatif. Or, l'être du relatif vous fait sortir du legein. Et l'être du relatif, c'est quoi? Quel est l'être du relatif? De quelque chose qui est relatif. C'est d'intégrer l'autre terme corrélatif. C'est pour ça que le relatif est un être qui n'est jamais simple. Dans sa signification même, il implique le corrélatif. Oui, alors vous avez, je crois que c'est ça qui est intéressant ici. Parce que ça montre la profondeur des catégories. Et ça montre toute la différence d'une analyse catégoriale telle qu'Aristote la donne ici avec l'analyse du structuralisme. C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu, parce que je crois que beaucoup d'entre vous ont lu les catégories et c'est important de comprendre au-delà de l'aspect descriptif, l'analyse philosophique. Et on le voit à propos du relatif. Alors on pourrait se demander, pourquoi c'est le relatif qui exige ce retour vers l'être, car ça ne fait pas pour la substance. Vous voyez, si Aristote l'avait fait pour la substance, il aurait dit, bon, très bien, substance première, substance seconde. Ceci indique qu'il y a nécessairement un troisième terme. L'être de la substance. Pourquoi Aristote ne s'est pas posé quel est l'être de la substance? Si Aristote s'était posé quel est l'être de la substance, il aurait saisi la substance telle qu'elle est dans le métaphysique Zeta. Alors qui reste dans la dualité substance première, substance seconde, qui a été source de toutes les erreurs. Parce que on est resté sur substance première, substance seconde. D'où la scolastique est restée la définition de la substance sujet. Vous verrez ça dans tous les manuels scolastiques. La substance sujet. Alors que si Aristote avait cherché l'être de la substance, on aurait tout de suite compris que la substance n'est pas par elle-même sujet, ni attribut, elle est autre chose, elle est l'autonomie dans l'ordre de l'être. Or, Aristote ne le fait pas, il le fait pour le relatif. Pourquoi? Pourquoi il le fait pour le relatif et non pas pour la substance? Ah, il ne dit pas pourquoi. Il faut réfléchir à ça. Il me semble, je vous donne une piste de recherche, il me semble que comme on est dans le livre des catégories, substance première et substance seconde se tiennent. Parce que la substance première dit autre chose que la substance seconde. Si la substance première dit autre chose que la substance seconde, on n'est pas devant deux termes corrélatifs. Donc, au point de vue catégorie, la substance première a suffisamment de corps, on dirait, hein, a suffisamment de corps pour se tenir par elle-même. Et donc, elle reçoit comme sujet la substance seconde. Et au point de vue catégorie, c'est très bien. Un sujet qui est la substance première joue parfaitement le rôle de sujet. Et donc, je n'ai pas besoin, au niveau du legein, au niveau des catégories, de chercher autre chose. Tandis qu'au contraire, le relatif, il est tellement débile, il est tellement fragile, il est tellement faible, que quand je ne regarde que son legen, je n'arrive pas très bien à définir le pur relatif et le relatif qualité et le relatif quantité. Parce que de fait, au point de vue de l'attribution, le relatif qualité et le pur relatif sont à peu près semblables. C'est pour ça que je suis obligé de mettre en pleine lumière la fragilité du pur relatif en me posant la question, quel est son être? Quelle est sa signification propre, caractéristique? Et je vois que le relatif se définit par l'autre terme relatif. Et non pas par le sujet. Vous voyez, comprenez si vous voulez, avec ce petit schème, toutes les catégories s'appuient sur la substance première, toutes. La substance seconde, la qualité, la quantité, tous. Elle a très bon dos. C'est ça que j'appelle avoir du corps. Elle a très bon dos, la substance première. Elle est sujet de toutes les autres catégories. Quand j'arrive au relatif, ah, le double se dit bien de la substance, oui. Le relatif se dit bien de la substance, mais attention, il se dit de la substance dans son legen, parce que presque toujours, il implique autre chose. Mais le relatif a ceci de très particulier, c'est qu'il est orienté vers l'autre terme relatif. Les deux termes corrélatifs se regardent mutuellement. Il y a donc, par rapport à la substance, quelque chose de nouveau. Quelque chose de totalement nouveau. Le relatif n'est pas tout entier dépendant de la substance. En tant que relatif, j'allais dire qu'il s'isole. Il se sépare de la substance. C'est extraordinairement curieux, ça. Le relatif comme relatif est anarchique. La substance fait l'unité de toutes les autres catégories. Et la substance ne fait pas l'unité du relatif. Curieux. Il y a donc dans le relatif quelque chose d'unique qui fait que la substance première ne peut pas s'identifier au terme relatif. Le relatif a quelque chose d'extrinsèque, vous voyez? L'aspect tourné vers la substance première. Tourner vers un autre relatif. C'est en ce sens-là qu'il est anarchique. Il ne s'épuise pas dans la substance. Il ne s'appuie pas totalement dans la substance. Il ouvre la substance à autre chose. Je crois que c'est ça qu'Aristote veut nous faire comprendre. Alors il le dit comme ça. Alors quand on lit, on se dit, mais c'est curieux. Pourquoi? C'était déjà dit d'une certaine manière au point de départ. Et non. On est passé du legein au toinein. On est passé du dire à l'être. Et c'est quand je regarde l'être du relatif que je comprends que l'être du relatif est totalement dépendant de son corrélatif. Donc soyez attentifs à ça. Parce que ça donne aux catégories une signification tout autre. C'est peut-être par là, vous voyez, qu'on devrait tout de suite commencer les catégories. Ce passage du Legaïn à l'être. Au livre Delta de la philosophie première, Aristote annonce que l'être par soi se dit en autant de sens qu'il y a de catégories, puisque le langage exprime la manière dont nous saisissons la réalité. Et il énumère la qualité, la quantité, le prosti. Mais son analyse métaphysique se limite à la détermination première, l'ousia. Et c'est vrai, ça. Aristote ne donne pas la métaphysique du relatif. Aristote ne donne pas la métaphysique, le regard du philosophe premier sur la qualité et la quantité. Mais cependant, dans le livre métaphysique, il y a le livre Delta. Et Delta, c'est le petit dictionnaire. Cependant, s'il n'analyse pas systématiquement le relatif comme il analyse l'ousia, la substance, on peut relever chez lui suffisamment d'affirmations pour pouvoir préciser ce qu'est le relatif pour lui. Dans les topiques, c'est un livre de logique. C'est le livre de la logique de l'opinion. Si vous voulez, c'est les topiques, c'est le livre dialectique d'Aristote. Sa dialectique, elle est dans les topiques. Puisque pour lui, il n'y a de dialectique qu'au niveau des opinions. Déjà dans les topiques, Aristote disait « L'ousia de tout relatif et d'être orienté vers un autre. » C'est très joli comme terme. Hein? L'ousia, donc la substance de tout relatif et d'être orienté vers un autre. Vous voyez que la substance est prise comme quidité, comme nature. La quidité de tout relatif et d'être orienté vers un autre. Vous voyez cette chose très curieuse, hein? Le relatif est un accident. En tant qu'accident, il est orienté vers la substance première. Et la quidité du relatif comme relatif est d'être orienté vers un autre. C'est ça qui est tellement curieux. Ça, il faut saisir ce caractère bizarre du relatif. Oui, bien. En tant qu'accident, il est tourné vers la substance première, comme tous les autres accidents. Donc, en tant qu'accident, il est tourné vers la substance première. En tant que je recherche la quidité du relatif, il est tourné vers un autre, vers un terme corrélatif. Il y a donc, dans le relatif même, quelque chose de bizarre, de double. Il est tourné vers la substance première, il est extrinsèque. Alors c'est ce qu'on dira. Donc, sa manière d'exister, et sa quidité, son essence, sa définition, son être. Oui, sa manière d'exister et d'être tourné vers la substance première, et sa quidité est d'être tourné vers le relatif. Ça, saisissez ça. C'est très important. Parce que là, on saisit quelque chose de tout à fait particulier au relatif. Quelque chose de bizarre. Parce que vous ne pouvez pas dire ça pour un autre accident. Oui, vous pouvez dire que la qualité a bien sa quidité. Blanc, blancheur. La blancheur n'est pas tournée vers la substance première, tandis que blanc est tourné vers la substance première. Pierre est blanc. La blancheur blancheur comme telle, c'est la quiddité de blanc. Mais la blancheur n'est pas ordonnée vers un autre. Donc, on comprend très bien comment blanc peut être tout entier tourné vers la substance première. Tandis que le relatif, sa quiddité est tournée vers un autre. Et cet autre n'est pas l'accident de la substance première. Donc comment peut-il être un accident qui existe par la substance première? Mais quelque chose d'anarchique dans le relatif. Il a un double regard, quoi. Il louche. Les deux yeux sont corrélatifs l'un par rapport aux autres. C'est pour ça qu'ils peuvent loucher. En tant qu'accident, en tant qu'existant, il est tout entier tourné vers la substance première. En tant que sa quiddité, son être, sa nature, il se définit par un autre. Il ne peut pas se définir seul. Et l'autre n'est pas accident de la substance première. Donc il y a quelque chose qui échappe. Il n'est pas englouti par la substance première. Il ne s'identifie pas totalement avec la substance première. Il fait que la substance première, parce qu'elle reçoit un terme relatif, parce que la relation existe en elle, la substance première est ouverte à autre chose. Ça, c'est très très important à saisir. Hein? Alors, l'ousia, je reprends ce terme, ce texte des topiques. Hein? Donc, topique, ceux qui veulent avoir la référence exacte, topique au livre 6, chapitre 8, 146, B4. L'ousia de tout relatif est d'être orienté vers un autre, puisque pour chacun des relatifs, tout ce qu'il a d'être est exactement ce qui se rapporte de quelque façon à quelque chose. Tout ce qu'il a d'être n'est pas relatif à la substance première, mais au corrélatif. Quasi contradictoire, vous voyez ? C'est pas contradictoire, mais c'est quasi contradictoire. C'est pour ça que c'est extrêmement curieux de voir ce que c'est que le relatif. Alors vous voyez, quand vous prenez le relatif comme étant le cœur de l'être, que devient le principe de contradiction ? Je relis ce texte parce qu'il est très très beau, il est très fort du reste. C'est les topiques, c'est bien. Les topiques, c'est on est dans quelque chose de moins précis. La nature de tout relatif, l'ousia de tout relatif, est d'être orienté vers un autre, puisque pour chacun des relatifs, tout ce qu'il a d'être est exactement ce qui se rapporte de quelque façon à quelque chose. Tout ce qu'il a d'être. Son être. Si Aristote parle ici de l'ousia de relatif, c'est simplement pour exprimer sa quiddité, ce qu'il est. En réalité, comme le précise la métaphysique, l'ousia ne peut être élément du relatif, ni le relatif élément de l'ousia, car il n'y a pas de principe commun à l'ousia et relatif. Et de toutes les déterminations de l'être, le prosti est celle qui est le moins une nature, une substance. Car relativement à l'être, elle est même postérieure à la qualité et à la quantité. Elle n'est même pas une détermination de ses déterminations. Elle est seulement un mode, un pathos de la quantité ou de la qualité. Donc Aristote parle de l'être du relatif, il précise ensuite que cet être n'est qu'un pathos. Traduisez pathos. L'être du relatif, c'est d'être pathos. Donc, il n'est pas une détermination. Il est un mode. Toujours, quand on ne sait plus quoi, on dit mode. C'est le virus, quoi. C'est la même chose. Quand vous ne savez pas, vous dites un virus, un pathos. Pathos, c'est une marque, un mode. Le relatif dans son être, c'est un pathos. Alors pensez virus. Un virus, c'est tellement difficile. Vous savez pas, il n'y a pas de détermination propre. Autrement dit, l'être du relatif implique toujours une autre nature que du cerf de fondement. Ah, là on commence à entrer un tout petit peu dans l'analyse. Il est si débile qu'il ne peut exister par lui-même. Alors cette phrase d'Aristote, donc c'est dans les métaphysiques là. Métaphysique, livre nu. 1, 26. Pardon. Donc c'est métaphysique nu 1, 1000.